Il est maintenant 19h30, ici à Paris, c'est Radio France Internationale que vous écoutez.
Afrique Soir.
C'est avec vous, Zéphirin Kouadio, bonsoir.
Bonsoir Philippe Le Caplan, bonsoir à toutes et à tous. Félix Tshisekedi exclut tout dialogue avec le M23, une ligne rouge que Kinshasa ne peut franchir dans le cadre du conflit qu'il oppose au mouvement rebelle soutenu par le Rwanda. Déclaration du chef de l'État congolais ce samedi lors de ses vœux au corps diplomatique. Au moins 70 personnes tuées ce samedi après l'explosion d'un camion-citerne au Nigeria. Les victimes tentaient de récupérer du carburant, un produit devenu rare et précieux dans ce pays producteur de pétrole mais confronté à une grave crise économique. Nous reviendrons également sur les funérailles nationales de l'ex-chef de guerre Prince Johnson ce samedi au Liberia. Les militants des droits humains dénoncent l'hommage à cet acteur majeur des guerres civiles qui ont ravagé le pays entre 1989 et 2003. La communauté internationale doit faire preuve de solidarité et il faut des sanctions ciblées contre le Rwanda à propos du président de la République démocratique du Congo. Lors de ses vœux au corps diplomatique en poste à Kinshasa ce samedi, Félix Tshisekedi a aussi rappelé la ligne rouge de Kinshasa dans ce conflit. Pas de négociation avec le M23, ce groupe armé soutenu par le Rwanda qui sévit dans l'est du pays. Et le chef de l'État a de rappeler que la situation sécuritaire dans l'est s'est gravement détériorée.
Des groupes armés, notamment le M23, soutenu directement par le Rwanda, continuent de semer la terreur dans les provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri. Le rapport accablant des experts des Nations Unies, publié en décembre 2024, a confirmé ce que nous dénonçons depuis des années. Il établit, preuve à l'appui, la présence de milliers de soldats rwandais sur notre territoire, leur soutien politique, logistique et militaires au M23, ainsi que leur implication dans l'exploitation illégale de nos ressources naturelles. Ces actes, qui constituent une violation flagrante de notre souveraineté, ont des conséquences humanitaires désastreuses. Dans les zones sous contrôle du M23, des administrations parallèles ont été instaurées de manière illégitime, imposant un régime répressif qui exploite les populations locales et sape gravement l'autorité de l'État.
Propos recueillis par Pauline Azidi et c'est vraisemblablement l'une des conséquences du conflit qui oppose actuellement Kinshasa à Kigali. Le plan ferroviaire américain pour un retour à la paix dans l'est de la République démocratique du Congo, bloqué par le Rwanda. Dans un entretien accordé à l'agence France-Presse ce samedi, la secrétaire d'État adjointe aux affaires africaines, Molefi, s'est exprimée sur le futur corridor ferroviaire de Lobito, un projet ambitieux reliant le sud de la République démocratique du Congo et de la Zambie à la côte atlantique, en Angola. Washington souhaitait étendre ce réseau jusqu'à l'est de la RDC, mais le Rwanda s'y est opposé, privant ainsi Joe Biden d'une victoire diplomatique majeure à quelques jours de la fin de son mandat. Retour sur les déclarations de la diplomate américaine avec Christina Okello.
Dans son interview à l'AFP, Molefi révèle que Washington avait proposé des incitations positives aux deux pays pour étendre le couloir ferroviaire de Lobito jusqu'à l'est de la RDC. Selon elle, un cadre bien négocié existait et était sur la bonne voie, mais Kigali s'en est éloigné. Le Rwanda a fait marche arrière, a regretté la diplomate, rappelant l'absence du président Paul Kagame au sommet de Luanda en décembre dernier et les avancées du M23 qui ont encore éloigné la perspective de paix dans l'est de la RDC. Elle souligne également que ce projet dépendait de l'engagement de Kinshasa à contrer les FDLR, un groupe armé issu d'anciens responsables du génocide rwandais. Or, selon elle, les autorités congolaises n'ont pas agi en ce sens, obligeant les États-Unis à tout remettre à plat. Mais en Éthiopie, Molefi affiche davantage d'optimisme. Elle s'est dite très fière du rôle des États-Unis dans la fin du conflit au Tigré qui a fait 600 000 morts en 2 ans. Cependant, elle a dénoncé la main lourde, c'est son expression, des forces éthiopiennes dans les régions d'Amara et d'Oromia, déplorant le manque d'attention aux victimes civiles.
Christina Okello. Et puis au Gabon, des milliers de personnes rassemblées à Libreville et dans les 9 capitales provinciales du pays pour une marche à l'appel de plusieurs associations et syndicats, mobilisation pour appeler le président de la transition, Brice Clotaire, Oligui Nguema, à déclarer sa candidature à la présidentielle prévue d'ici août prochain. Le Nigeria endeuillé par un nouvel accident qui implique une fois de plus un camion citerne ce matin dans l'état du Niger. Au moins 70 personnes sont mortes dans l'explosion d'un poids lourd transportant du carburant. Drame survenu sur la route reliant la ville de Kaduna à la capitale fédérale Abuja. Bonsoir Sidi Yansané.
Bonsoir Zéphirin.
Et c'est encore une fois l'explosion d'un camion-citerne après un accident de la route qui a coûté la vie à ces dizaines de personnes.
Oui, selon la FRSC, l'agence de sécurité routière du Nigeria, c'est un véhicule qui transportait 60 000 litres d'essence qui s'est renversé à la jonction de Diko entre Abuja et Kaduna. Le contenu de la cuve s'est déversé sur le sol et d'après le quotidien nigérian The Guardian, qui cite l'agence de gestion des urgences de l'État de Niger, c'est en voulant transférer l'essence dans un autre camion-citerne que le liquide est entré en contact avec un groupe électrogène. Le carburant a immédiatement pris feu et provoqué l'explosion du véhicule accidenté, emportant avec lui le camion de secours et des dizaines de personnes qui s'étaient précipitées sur le précieux liquide répandu au sol afin de récupérer le plus possible. C'est le deuxième accident de ce genre sur les trois derniers mois. En octobre, les mêmes événements s'étaient produits dans l'état de Jigawa, dans le nord. Plus de 170 personnes avaient perdu la vie. Depuis un an et demi, les prix du carburant ont été multipliés par 5. La crise économique a augmenté les prix des denrées alimentaires et a accentué la précarité de nombreux Nigérians.
Ainsi dit Yansané. On en vient aux obsèques nationales de Prince Johnson qui se sont déroulées ce samedi dans le comté de Nemba au Liberia. Cette cérémonie organisée en hommage à l'ancien sénateur et chef de guerre surnommé Le Parrain a attiré des milliers de personnes en présence du président Joseph Boakai et de hauts responsables. Point d'orgue d'une semaine d'hommage qui suscite une vive controverse pour les militants des droits humains. C'est effectivement une insulte aux victimes, victimes des crimes de guerre attribués à Prince Johnson. Écoutez justement ce qu'en dit Adama Dempster, militant des droits humains.
Sachant que le sénateur Prince Johnson est cité dans le rapport de la commission Vérité et Réconciliation comme l'un des principaux responsables de multiples atrocités commises pendant la guerre civile libérienne, il est profondément triste pour nous, militants pour la justice, de le voir bénéficier d'un hommage funéraire officiel avec tout ce faste. En outre, la plupart des victimes et des survivants espéraient qu'un processus serait mis en place pour que M. Johnson réponde devant la justice pour les nombreuses atrocités associées à son nom pendant la guerre civile. Prince Johnson a certes occupé un poste de haut niveau, ce qui explique la présence officielle du gouvernement à ses funérailles. Cependant, cela soulève également des questions sur la sincérité d'un gouvernement qui a déjà signé un décret pour approuver une résolution conjointe pour la création d'un tribunal des crimes de guerre et économiques. Ces funérailles nationales jettent un doute sérieux sur l'engagement réel du Libéria envers la justice et la responsabilité dans le traitement des crimes de guerre.
Et je rappelle que les guerres civiles du Libéria, marquées par des massacres, des actes de torture et des violences sexuelles, ont coûté la vie à environ 250 000 personnes entre 1989 et 2003. Des efforts sont en cours pour mettre en place un tribunal pour les crimes de guerre. Dès lundi, une mission d'experts internationaux est attendue au Libéria pour discuter justement des modèles possibles de justice transitionnelle. Stephen Rapp, ancien procureur du tribunal spécial pour la Sierra Leone, fait partie de cette mission d'experts. On ouvre maintenant notre page sport dans Afrique Soir avec du football. Sixième et dernière journée de la phase de poule de la Ligue des Champions africaines. On va connaître ce week-end les dernières équipes qualifiées pour les quarts de finale. On en parle avec vous, Sofiane Amazian, bonsoir.
Bonsoir Zéphira, bonsoir à tous.
Parmi les équipes déjà éliminées, les Congolais du tout-puissant Mazembe clôturent leur aventure continentale par une victoire écrasante.
Ouais, les corbeaux de Lubumbashi, qui n'avaient, Zéphirin, que 2 points en 5 matchs avant la rencontre, et bien les corbeaux ont remis les pendules à l'heure pour leur dernière dans le stade de Kamalondo. Victoire 4-0 face au leader de la poule A, les Soudanais, d'Al Hilal. Les corbeaux restent tout de même derniers, Zéphirin. Eux, les demi-finalistes, on le rappelle, de la précédente édition. Et puis dans ce même groupe A, le Mouloudia d'Alger se qualifie après son 0-0 contre les Young Africans tanzaniens. Dans le groupe C, le Stade d'Abidjan, quant à lui, s'est fait écraser en Algérie par Belouizdad. Score final 6-0. Les Ivoiriens terminent bon dernier de leur poule avec un seul point au compteur. Le tenant du titre, c'est à noter, les Égyptiens d'Al Ahly, eh bien, ils ont perdu contre les Orlando Pirates sur le score de 2-1.
Eh bien, 2 matchs sont également programmés dans moins de 30 minutes, Sofiane.
Oui, c'est l'épilogue du groupe D, enfin presque, hein, Zéphirin, puisque l'Espérance Tunis et les Pyramides sont déjà qualifiés. L'Espérance Tunis reçoit les Angolais de Sagrada, coup d'envoi 19h temps universel. Et en même temps, les Égyptiens de Pyramides accueillent les Maliens de Djoliba, les Maliens de Djoliba qui sont déjà éliminés.
Eh ben, c'est à suivre avec vous encore. Merci beaucoup, Sofiane Amazian. Il est 19h40 ici à Paris. Merci de rester à l'écoute de Radio France Internationale.